Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes maintenant agréablement installés chez vous pour celles et ceux qui sont un peu football. Je suppose que vous avez passé une bonne soirée avec cette belle victoire du Paris Saint-Germain. Et puis pour ceux qui sont un peu à tendance espagnole, eh bien, il y a un match retour, chers amis, même si je crains que cela va être très dur pour Barcelone. Et que pour les Parisiens, les quarts de finale sont tout prêts. Vous êtes sur votre libre antenne. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et vous pouvez, dès maintenant, appeler Florian et Natacha au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, pour nous écrire vos SMS, vos messages, que vous n'oubliez pas de signer si vous voulez que nous l'évoquions à l'antenne. Vous pouvez toujours mettre votre numéro de téléphone sur ce SMS si vous désirez intervenir à l'antenne. Vous connaissez pour la plupart le chemin, chers amis. Voilà, votre libre antenne du mardi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Syria au 39-21. Bonsoir Syria.
Bonsoir, bonsoir Olivier.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Syria et quel âge avez-vous ?
Alors j'habite Le Vins, sur les hauteurs de Nice.
Oui.
Et j'ai 53 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Syria ?
Apparemment, le post que j'ai mis ce matin sur ma page et que j'ai partagé sur la page d'Europe 1.
Oui.
Et donc j'ai été contactée si je voulais intervenir et j'ai dit oui.
Très bien. Alors ce post, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être que vous pouvez nous en dire... nous en livrer le contenu, en gros.
Donc le contenu, c'est un peu ce que nous vivons au quotidien, personnel soignant, depuis le mois de septembre.
Oui.
C'est-à-dire que autant on a été soutenu, applaudi, chouchouté, on va dire, pendant la première vague, et autant on est devenu invisible, presque des pestiférés depuis la deuxième vague. Les gens ne respectent rien et ils trouvent logique qu'on soit là et qu'on doit travailler, qu'on doit faire face à cette recrudescence de patients à prendre en charge alors que les effectifs sont manquants, alors que même si le budget de l'État, même si l'ARS a triplé la dotation, il n'y a pas assez de personnel pour faire face à cette crise. Voilà.
Et pourquoi dites-vous que vous êtes des pestiférés ?
Parce que quelque part, on devrait ne rien dire. On nous envoie au front, oui. On nous demande d'être présents, on nous réquisitionne, mais on ne doit rien dire. On n'a pas le droit à la parole, on ne nous entend pas. Le petit personnel, je parle. Donc, tout le monde se dispute un peu la gloire d'un vaccin ou de solutions à venir, tout en mettant tout le monde sous cloche. Mais en attendant, il faut faire face à toute cette vague de personnes atteintes du Covid. Et on est confronté à des situations dramatiques,
oui.
où les gens meurent seuls, où il n'y a toujours pas de traitement, et où les gens ne respectent rien. Voilà. Et nous, on est là et on n'a plus rien à dire. On ne peut rien dire, en fait. Voilà. On doit juste faire face à ça et se débrouiller tant bien que mal et ne pas se plaindre, surtout.
Voilà. Ne pas vous plaindre. Vous sentez ça, que dès que vous dites quelque chose, vous êtes...
Oui.
On vous regarde de
oui,
travers.
Oui, d'ailleurs, vous regardez beaucoup sur le poste, on commenté et on nous fait comprendre que c'est bon, quoi, c'est notre boulot, on n'a pas à se plaindre. Tout le monde travaille, quoi.
Ouais,
mais
ouais.
Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans un service Covid.
Non,
ils
ne
se rendent pas compte
c'est...
de la lourdeur du travail. 12 heures, mais 12 heures où vous devez vous déshabiller, vous rhabiller pour chaque patient. Vous devez tout le temps être sur le qui-vive. Vous devez... Les soins sont lourds. Et l'espoir de survie est minime. C'est-à-dire que vous pouvez passer 3 semaines à soigner quelqu'un en sachant qu'au bout de 3, enfin, la plupart du temps, au bout de 3 semaines, il va décéder, quoi. Surtout pour les 80 ans et plus.
Oui.
Voilà. Mais après, c'est notre devoir de les accompagner, d'être là. Mais voilà, la charge, c'est pas seulement la charge de travail, c'est la charge émotionnelle. Les équipes de nuit ne voient personne.
Ils ne voient personne, c'est-à-dire ?
Personne ne vient soutenir les équipes de nuit.
Oui, oui. Non, mais il est certain que lors du premier confinement, vous avez été applaudi et que depuis, je m'en étonne, hein, j'y pensais il y a 2 jours, que depuis, on ne parle plus de vous, en fait. On n'a plus ce mouvement, même d'attention, vous voyez, sans cet applaudissement quotidien. J'ai senti que, bon, bah, ça y était, vous étiez là, vous deviez bosser, faire votre devoir, et puis c'est comme ça. En fait, c'est l'individualisme qui reprend le dessus, vous voyez ? C'est dans une situation où les gens ont peur, hein, ils ont peur de la maladie, ils ont peur...
La maladie est partout, tout le monde est confronté à ça.
Complètement.
On ne va pas minimiser, une caissière est autant en danger que toute autre personne, et même plus en danger, parce que nous, quand nous sommes dans notre service, on sait très bien à qui nous avons affaire. Donc nous nous habillons en conséquence et on sait y faire face, ce qui n'est pas le cas d'une caissière, ce qui n'est pas le cas d'un chauffeur de bus ou de tram ou tout ce qu'on veut.
Mais c'est à cela que vous faisiez allusion en disant que vous étiez des pestiférés, donc soupçonnés de pouvoir répandre le virus parce que vous étiez au contact tous les jours de malades, c'est ça, en fait ?
Voilà, quelque part, c'est ça. C'est faites votre boulot, mais restez dans votre coin.
Mmh.
Voilà. Et en plus, il y a quelque temps, je me suis positionnée en disant je ne me vaccinerai pas. On passe encore plus pour des pestiférés de dire on ne se vaccine pas. Comment pouvez-vous vous occuper de patients malades et vous refuser de vous vacciner ? On a encore le libre arbitre.
Oui, complètement. Oui.
Voilà. Donc en fait, on nous met dans un moule et on doit y rester au gré des jugements des uns et des autres.
Mmh.
Voilà, et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est plus ça qui est lourd que le travail en lui-même.
Et vous avez des confrères et des consœurs qui vous disent qu'elles ont des réflexions comme ça, désobligeantes par rapport à.
Je pense qu'on s'est tous plus petit à petit isolés depuis fin septembre. On a tous ressenti que voilà. On ne doit pas se la ramener, tout simplement.
Ah, carrément.
Donc oui. Donc on se soutient les uns les autres, mais on est tous on est tous dans notre bulle, en parallèle avec d'autres. Puis bon, après le fait de travailler de nuit, donc on ne voit plus, on n'est plus dans la société comme tout un chacun, on va dire.
Mmh,
voilà.
Mmh. C'est tout à fait regrettable, hein, ce que vous nous racontez ce soir sur cette antenne.
Malheureusement, c'est la réalité.
Mais c'est vraiment regrettable parce que vous êtes en première ligne. Rien n'a changé, hein, depuis l'arrivée de ce Covid.
Si, on ne peut pas dire que rien n'a changé. On sait y faire face. On sait trier. Des services ont été ouverts. Le privé travaille en binôme avec le public, ce qui n'était pas le cas au premier confinement. Hein.
Mmh.
Donc, il y a des améliorations. Il y a une autre façon de voir arriver, je veux dire, mais nos services sont toujours pleins. On ouvre de plus en plus de lits. Mais même ça, les gens, ça les gave de l'entendre. Donc, ils ne veulent pas le croire. Et donc, ils partent du principe que, voilà, le vaccin arrive, ça va sauver tout le monde et tout va s'arrêter. Ils n'ont rien compris au vaccin. Le vaccin est juste là pour protéger des formes graves du virus de mars dernier, mais il n'empêchera pas ni de l'attraper, ni de le transmettre.
Oui, oui.
Voilà. Donc, à force de donner des informations en boucle sur tout et n'importe quoi, donc les gens en ont marre et commencent à faire un peu leur propre sauce à leur manière. Et puis, ceux qui sont au front sont toujours les premiers à prendre la vague, quoi. Mmh. C'est comme ça que moi, je le conçois. Je parle pour moi. Hein. Après, chacun le voit différemment. Bien entendu, comme je disais, l'ARS a triplé le budget pour l'effectif, mais il n'y a pas d'effectif. On ne peut pas former une infirmière qui fait sa formation en 3 ans, on ne peut pas la former en 2 ans ou en 1 an, en sachant qu'il n'y a pas longtemps, on a réquisitionné les étudiants infirmiers pour 2 € de l'heure pour venir prêter main forte aux aides-soignants. Et dans ces services-là, comme vous savez que c'est des services lourds où il y a quand même pas mal d'appareillages, il faut avoir des formations spécifiques, que ce soit en réa, que ce soit en psycho ou en soins intensifs. Donc c'est pas anodin comme soin. Donc voilà, c'est plein de petits détails qui font que on n'entend pas. Alors qu'on pourrait et il y aurait des retraités qui seraient prêts à revenir, mais à la condition que le salaire et la retraite soient cumulables et non imposables, parce que ça serait dommage de les pénaliser. Personne ne va venir travailler pour rien. Et personne n'a envie non plus d'être imposable parce qu'il travaille et parce qu'il vient porter main forte. Donc c'est un dilemme permanent.
Oui, c'est ça, c'est un dilemme permanent.
Et à côté de ça, ben nous, il faut continuer d'avancer. Le train est sur les rails, on avance. Voilà. Coûte que coûte.
C'est incroyable. Je ne sais que vous dire parce que ce repli sur soi-même de la population et un manque de solidarité avec. En fait, aucune comparaison avec ce premier confinement.
Rien à voir.
Même dans le traitement de l'actualité, vous êtes oublié.
Presque le premier confinement, c'était trop. Mais vraiment, même si c'était touchant, c'était énorme. On ne savait plus où accrocher les dessins des enfants, on ne savait plus quoi faire. Enfin, je veux dire, il y avait tellement de nourriture que, on distribuait un peu partout. Les crèmes pour les mains, on ne voit plus rien. Plus rien, tout ça. Plus rien. Pourtant, on se lave encore plus les mains qu'au début parce que là, on est à flux tendu, donc non-stop. On se lave toujours autant, voire plus les mains. On a toujours besoin de boire du café. Il a fallu faire un appel aux dons pour une machine à café sur un direct pour qu'on nous offre une machine à café parce qu'on se retrouvait avec une machine à café pour 3 services. On a la chance d'avoir Carrefour, Citymé et Herbert à Nice qui nous offrent les dosettes de Senseo. On a des partenaires qui nous offrent des petits biscuits, des petits trucs, mais parce que je suis dans le monde associatif, parce qu'ils me connaissent, parce que de temps en temps on m'appelle en me disant Syria passe chercher, donc je passe chercher, mais pas tous les services ont cette on essaye de partager la galette des rois qui habituellement est offerte c'est tous les jours non-stop pendant un mois. Cette année il n'y en a pas eu.
Oui, c'est
on
ça,
a
ouais.
Un boulanger, ouais. Pfizer, qui a offert pour tous les trois étages de la réa. Donc sur les 4 étages, nous a offert des galettes des rois grâce à la team Caras. Mais sinon, on n'a rien. Je veux dire, voilà, c'est pas des contacts qu'on se connaît les uns les autres et ces contacts-là décident de continuer de temps en temps des petits gestes solidaires comme ça pour un service ou 2 spécifiques. C'est terminé, c'est fini. Faut oublier. Si on a confortable pour se poser 1 heure, c'est déjà bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que des services ont été ouverts comme ça, un peu à l'arrache, hein, donc en sachant que le budget n'est pas voté pour le confort du personnel. Hein. Voilà.
Et en fait, vous sentez que le moral des troupes est... En fait, on ressent la même chose, vos collègues ressentent, c'est général.
Ils sont épuisés, oui. C'est épuisé parce que les plannings sont changés tous les jours, parfois deux fois par jour. C'est-à-dire que on ne peut rien prévoir. Vous ne pouvez pas décider de prévoir partir deux ou trois jours. Hein. Les plannings sont changés tous les jours. Donc, vous vous retrouvez arrivé en pensant travailler au quatrième étage avec vos collègues habituels et en fait, on vous parachute au troisième ou on vous parachute au cinquième et ainsi de suite. Donc, on est devenu du personnel volant, en fait, entre trois étages, trois, quatre étages. Mm-hmm. Parce qu'il faut combler les absents, parce qu'il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, on a une infirmière qui est enceinte de 5 mois et qui est avec nous. La nuit, un coup elle est de nuit, un coup elle est 2 jours, un coup, je veux dire, voilà, à un moment donné, on sait très bien que c'est le genre de personne qui, dans moins d'un mois, son médecin va l'arrêter. Il n'y aura pas de solution. Tout ça parce que on n'anticipe pas de la mettre dans un service soft et de faire venir, parce qu'il n'y a personne à faire venir à la place. Quand une personne manque le soir, ils ont beau faire un appel pour trouver, que ce soit en intérim ou que ce soit... on ne trouve pas. Il n'y a pas. Voilà. Donc l'équipe devra se débrouiller avec une personne en moins.
D'accord. En fait, les gens ne veulent pas aller travailler.
C'est pas qu'ils veulent pas aller travailler, c'est qu'ils sont épuisés. C'est qu'on peut plus, on peut pas, on peut pas pousser les gens, même s'ils veulent faire des heures sup. À un moment donné, le corps ne peut plus. Vous pouvez pas faire non-stop. Quand vous faites 3 nuits non-stop, vous êtes sur les rotules. Donc vous pourrez pas faire la 4e.
Oui.
À un moment donné, même le corps a besoin de se reposer. Et puis, quand vous êtes à flux tendu et qu'il y a déjà du manque de personnel et que vous en avez d'autres qui sont épuisés, ben malheureusement, ça crée des situations compliquées. Mmh. Parce que sur la première vague, beaucoup de services étaient fermés, ce qui fait que le personnel de ces services-là était parachuté dans un roulement permanent de façon à ce que ça ne manque pas de bras.
Et qu'est-ce qui pourrait changer alors actuellement pour que ça aille mieux? Vous pensez que c'est une attitude générale de la population?
Je pense que non, parce que la population, elle répond à ce qu'on lui renvoie.
Oui, oui.
Voilà. Donc déjà, c'est pas ça. Mais ce qui pourrait changer pour le personnel soignant, moi je l'ai déjà parlé, c'est qu'on trouve des solutions pérennes. Ce virus, on va devoir vivre avec pendant encore quelques années, puisqu'il est mutant et que chaque fois, on est confronté à de nouvelles données et de prises en charge. Donc, il va bien falloir trouver des solutions pérennes. Et les solutions pérennes, il faut les trouver. On ne peut pas former comme ça sur le tas, ou on ouvre plus d'écoles et on forme. Oui. Et ça va pas être évident. Ou ceux qui sont déjà formés, on leur fait une formation spécifique et dans ces cas-là, on trouve à former des personnes pour les services soft. Ou alors, où on fait appel aux retraités qui viennent de partir à la retraite, mais dans ces cas-là, qu'on leur offre le budget qui va avec. Tout est une question de finance.
Oui.
Voilà. Ouais, vous pouvez pas passer. Le gouvernement ne peut pas passer son temps à dire nous sommes en guerre contre un virus. Tout le monde est réquisitionné. La plupart sont, et moi la première. Ça faisait 9 ans que j'avais quitté les soins. Je me suis portée volontaire puisque de toutes les façons, quand on est personnel soignant, on reste réserviste à vie. On n'a pas passé ce diplôme pour juste le mettre dans une case, même si on évolue dans d'autres secteurs. Donc, et ça a été mon cas. Et j'ai été appelée et je me suis portée volontaire et j'y suis. Et je ne regrette pas d'y être. C'est pas le sens de mon intervention. Ce que je regrette, c'est que rien n'est fait ou très peu de choses sont faites garder le moral des troupes. Voilà. C'est plus clair ?
Oui, complètement, c'est voilà. Très clair.
C'est tout.
Très clair.
Et pour motiver et garder le moral des troupes, il faut qu'ils se sentent soutenus, ne serait-ce que par leur hiérarchie ou par... ça, c'est pas évident. C'est pas évident quand depuis des mois ils se battent pour une augmentation et que la seule augmentation qu'on leur propose c'est 185 euros à venir là.
Oui, c'est pas terrible, 185 non. euros par rapport non. à tout le travail qui est fait, c'est
non, c'est ça.
C'est rien.
C'est ça.
Rien.
C'est ça. Vous avez tout compris. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, et puis on fait avec. Il y a pire, hein. Là, aujourd'hui, on est confronté aux étudiants qui mordent de faim. Donc, du coup, voilà, il y a toujours pire. Quand on regarde un peu plus loin, les dégâts collatéraux que font ce virus, ils tuent, mais ils tuent pas que dans les services Covid ou dans l'enceinte de l'hôpital. Ils tuent partout et à petit feu. Et là, aujourd'hui, nous avons des restaurateurs, nous avons des artistes, nous avons des intermittents du spectacle, nous avons des étudiants qui sont en train de s'éteindre
à petit feu.
Voilà. Voilà. Et qui sont confrontés à une autre forme qui est la misère. Voilà.
Bon, eh ben écoutez, tout ça n'est pas très gai hein, pour vous qui êtes... et en plus, vous n'êtes que réserviste, en plus.
Oui.
Je rappelle que c'est... vous ne faites pas rien, hein, vous êtes réserviste, donc vous êtes au cœur de tout ça. Mais on se rend compte combien c'est compliqué aujourd'hui, extrêmement compliqué.
Oui, parce que les budgets, bon, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que c'est figé dans le temps, ça fait 20 ans que certains services ont les mêmes lits, les mêmes... donc, c'est pas évident, on peut pas... il faut faire des choix. Et les choix ont été faits quand même de que le personnel soignant puisse avoir tout le nécessaire qu'il faut pour se protéger. Et encore heureux, ce qui n'était pas évident pour la première vague. C'est pour ça que pour la première vague, je me suis engagée sur l'administratif,
oui.
Et pas sur le... Voilà, donc sur celle-ci, je me suis quand même portée volontaire sur le soin. Mais encore une fois, je pense que à chaque niveau hiérarchique, chacun fait de son mieux avec ce qu'il a. Mais le problème, c'est qu'arriver en bas, donc... ceux qui sont vraiment face au quotidien, jour et nuit, à la prise en charge des patients, ben ils sont sur les rotules, ils n'en peuvent plus, ils estiment que c'est plus possible de changer des plannings comme ça chaque jour parce qu'il manque des effectifs, que on peut pas passer son temps à courir après un minimum de reconnaissance. Voilà, donc c'est des petits détails, hein, mais des petits détails accumulés qui font que voilà le moral des troupes est en berne.
Oui, ouais, je comprends. Et vous voyez, ça me sidère un peu parce que à part vous dire qu'il faut tenir, qu'il faut garder confiance.
On tiendra. Nous,
oui,
on tiendra
parce que c'est votre vocation de tenir, mais ça n'est pas très. Très rassurant d'abord d'entendre tout ça, parce que ça reste, vous restez en première ligne pour nous tous, parce que où qu'on soit et qui qu'on soit, nous passerons un jour dans les mains de ces soignants, parce que la vie
c'est
est
ça.
Comme ça et que il faut faire attention à nos soignants. Or, on ne cesse de les brinque-baller comme ça entre promesses.
Non,
et puis
c'est pas ça, c'est que il y a les protocoles qui changent en permanence. En permanence, il faut se réajuster. Je veux dire, c'est pas se dire je vais faire cette nuit, je reviens de la nuit prochaine, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Chaque patient est différent, sa prise en charge est différente. Mais en dehors de ça, les protocoles aussi sont différents. La prise en charge d'un décès du Covid n'est pas la même qu'un décès infectieux ou autre. C'est toute cette lourdeur aussi administrative, puisque tout ce que nous faisons, nous devons le laisser, quoi, je veux dire, le transmettre. C'est énormément de boulot. Voilà. C'est énormément de travail. Nous y faisons face, tant bien que mal. Mais voilà, on se sent invisible, oui, invisible, depuis quelques mois. On sent que, voilà, c'est bon, on est devenu un service comme un autre, une prise en charge comme une autre, du personnel ben, comme les autres, point barre. Faites ce que vous avez à faire et puis passez votre route. Vous comprenez ?
Oui, bah je comprends parfaitement bien, malheureusement, je comprends parfaitement bien. Et je vous dis, c'est terrible d'entendre ça, en fait, parce que cela ne devrait pas être comme ça. Parce qu'encore une fois, je le répète, on ira tous à l'hôpital, on sera tous confrontés à ce personnel soignant auquel il faut faire attention.
Bah, on espère que non.
Oui, mais
que non.
Non, mais c'est la vie qui veut ça. Vous voyez, Syria, c'est pas. Je ne suis pas en train de dire de vouloir faire peur. On sera tous un jour confrontés à la maladie, à la vieillesse.
Comme ma grand-mère disait, quand on donne la vie, on donne la mort. Donc du coup, on sera tous confrontés à la mort à un moment donné ou à un autre. C'est clair. On voudrait que ça se passe le mieux possible, entouré des meilleures personnes possibles et surtout de sa famille. Aujourd'hui, malheureusement, à part quelques cas exceptionnels, les personnes meurent seules.
Oui.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à devoir accompagner ces personnes-là jusqu'à la fin. C'est dur, c'est dramatique, c'est déchirant. On s'imagine son père, son grand-père, sa grand-mère ou sa mère qui est là et qui est en train de partir toute seule, isolée. Et c'est pas évident. Mais après, ça devient tellement un automatisme. Donc on est là, on sait qu'il va mourir, et puis il meurt, et puis voilà, c'est fini. Et puis on appelle la morgue, et puis voilà, on fait le protocole pour emballer le corps, et puis on passe à quelqu'un d'autre, et on désinfecte la chambre, et 20 minutes après, vous avez un autre patient, et ainsi de suite.
Ouais.
Et puis ça, vous devez l'éponger, puis continuer, avancer. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est une image qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas, qu'on montre pas, qu'on ne dit pas. Mais voilà, nous, les personnes qui rentrent chez nous, on prie pour qu'elles sortent sur leurs jambes, mais rarement elles repartent sur leurs deux pieds, quoi, je veux dire. C'est la réalité.
Oui.
C'est la réalité. Et on se serre les coudes parce qu'il faut le faire. Mais quand on nous dit tout le monde n'est pas confronté à la mort en permanence.
Non, et puis tout le monde n'est pas confronté à des situations d'urgence. Je vais vous dire tout simplement ce que vous me dites ce soir. Je connais quelqu'un qui aujourd'hui, il avait un traitement, un rhumatologue lui avait donné un traitement. Visiblement un traitement trop important pour lui, et il s'est retrouvé, il n'avait plus de globules blancs, donc une ambulance l'a emmené du côté de dans le sud, là, je ne vais pas dire dans quel hôpital, parce que ça ne sert à rien de taper sur un hôpital, mais ça fait maintenant 6 heures qu'il est dans une pièce, parce qu'il n'y a pas de chambre, où les microbes ne peuvent pas rentrer, je ne sais plus comment s'appellent ces chambres.
Stérile,
voilà, et ça fait 7 heures même qu'il est enfermé.
Vous
comme
avez
ça.
Aujourd'hui, certaines personnes passent plus de 12 heures aux urgences, le temps de trouver un lit.
Voilà, et c'est très clair là pour cet homme que la situation est due au Covid et à la surcharge de travail du personnel.
Mais encore une fois, la chance qu'on a depuis le mois de septembre-octobre, c'est que les cliniques ont pris le relais.
En plus, ouais. Ouais.
Ce qui n'était pas le cas pendant le premier confinement.
Mmh.
Mais on est tellement à flux tendu, il y a tellement de cas. Là, on était je crois que si mes comptes sont bons, c'était quand même, on est à plus de 300-400 personnes par jour qui passent par toutes les urgences confondues.
Non, mais...
Donc les cliniques et le privé.
Mmh. Non, mais c'est une situation très grave. Merci en tout cas, Syria, d'être intervenue ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bien évidemment,
merci.
Je vous souhaite plein de courage. C'était important de rappeler tout ça pour le monde hospitalier et surtout nos soignants. Et puis, transmettez ce courage et cette force à toutes celles et ceux que vous connaissez. Bonsoir, Syria.
Merci, c'est gentil. Merci.
Au revoir. Europe 1, il est minuit. Le journal de la rédaction, Julien Pierce.
Vous avez pu le vivre en direct et en intégralité sur Europe 1, la superbe victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Barcelone. 4-1, 8e de finale aller de la Ligue des Champions avec un immense Kylian Mbappé, auteur d'un triplé et forcément ravi de sa performance ce soir.
C'est très bien, je suis content. Voilà, j'ai toujours voulu Donner le meilleur de moi-même avec le Paris Saint-Germain, c'est un maillot qui me tient à cœur. Voilà, donner le meilleur de moi-même. Après, il n'y a pas toujours eu de la réussite et peut-être que je vais encore rater des matchs, mais jamais dans ma vie je vais me cacher. C'était un match très important pour nous. Voilà, on voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait, voilà, avec la manière. Maintenant, voilà, on est concentré sur nos objectifs. On a déjà un match important dimanche. En championnat, parce qu'on a toujours pas de marge, on n'est pas premier, donc ça va être important de tout de suite se remettre la tête au championnat, parce que avec ce match c'est magnifique, mais on a rien gagné.
Kylian Mbappé au micro de nos confrères de RMC Sport, match retour le 10 mars au Parc des Princes. L'autre actualité ce soir, c'est la situation épidémique. Elle s'améliore en France, les principaux indicateurs reculent depuis plusieurs jours, mais cela pourrait ne pas durer si l'on en croit une nouvelle étude de l'Inserm qui prévoit le pire pour le mois de mars. Mathieu Charrier.
Eh oui, l'INSERM qui estime que le variant anglais pourrait devenir dominant en France entre la fin février et la mi-mars, c'est-à-dire que le couvre-feu avancé à 18h ne suffirait plus à freiner sa propagation. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'une fois que ce variant aura rapidement et majoritairement remplacé le virus d'origine, eh bien, toujours selon l'INSERM, le nombre d'admissions à l'hôpital va flamber. Écoutez bien les chiffres, on est aujourd'hui à moins de 10 000 admissions hebdomadaires à l'hôpital, ce sera 15 000 la semaine du 7 mars, puis 25 000 dans la semaine du 22 mars, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois, ce qui veut dire qu'on sera au-dessus des 20 000 admissions hebdomadaires à l'hôpital du mois de novembre dernier qui avait engendré le deuxième confinement. Alors c'est vrai que ces projections vont à l'encontre de ce que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire à tous les indicateurs qui sont en recul. Pourtant, l'INSERM précise que les mesures actuelles prises par le gouvernement ne suffiront pas à limiter la transmission du variant britannique et que la couverture vaccinale à fin mars ne sera pas non plus suffisante pour atténuer les contaminations. Il faut attendre au moins fin avril, selon l'INSERM, pour voir les premiers effets de cette vaccination. Autre élément inquiétant, cette étude ne prend pas en compte les variants sud-africains et brésiliens, qui pourrait encore accentuer ces chiffres.
Mathieu Charrier, et à propos du variant sud-africain, il est très présent en Moselle, on vous en parle depuis plusieurs jours, il représente déjà 35% des contaminations dans le département. Alors pour freiner cette propagation, des marins-pompiers de Marseille sont à Metz depuis dimanche. Objectif, traquer la mutation dans les eaux usées pour mieux l'isoler. Arthur Mbaché, est-ce que l'on a de premiers résultats ?
Alors, il semblerait que les résultats des analyses des marins-pompiers de Marseille dans les eaux usées de la Moselle, eh bien, ne sont pas si catastrophiques que ça. Pas de traces de coronavirus dans les 6 EHPAD testés. Pour ce qui est de l'analyse des autres points de collecte, une vingtaine, la préfecture préfère attendre une nouvelle série de prélèvements aux mêmes endroits pour donner des résultats consolidés vendredi. Mais l'ARS rappelle la proportion de variants sud-africains ici dans le département, 35%, 10 fois plus qu'ailleurs en France. Et côté hôpital, la directrice générale du CHR, Marie-Odile Saillard, se dit prête à affronter une vague liée aux nouveaux variants.
Nous ne savons pas exactement combien de temps il va falloir pour que ça arrive. C'est-à-dire qu'on le sait à peu près pour le virus de la souche chinoise. Hein, on savait quand nos laboratoires détectaient, 8 jours après on l'avait aux urgences et puis 8 jours après on l'avait dans les lits. Donc là visiblement nos cadres de référence sont un petit peu modifiés. Aujourd'hui ça monte au laboratoire, ça ne monte pas encore aux urgences. Faut le dire, aux urgences, je regarde. Quand ça va monter aux urgences, je sais très bien que dans 3-4 jours après, ça sera dans les lits.
Voilà, on est dans cette période de creux, un peu d'incertitude, dans l'attente de mesurer les dégâts que vont faire sans doute les nouveaux variants ici en Moselle.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. Nous aurons peut-être bientôt un quatrième vaccin contre le Covid en Europe. Le laboratoire américain Johnson & Johnson a déposé aujourd'hui à Bruxelles une demande d'approbation pour son sérum. La décision de l'Agence européenne des médicaments est attendue courant mars. Dans le reste de l'actualité, en bref, les députés ont adopté cet après-midi en première lecture le projet de loi contre le séparatisme islamiste. C'est maintenant au tour du Sénat d'examiner le texte. Emmanuel Macron veut décapiter les groupes liés à Al-Qaïda. Le chef de l'État qui participe à distance au G5 Sahel ne réduira pas la présence de militaires français dans la région, en tout cas dans l'immédiat. Et puis on a appris ce soir la disparition d'une figure du reggae français. Tonton David est décédé aujourd'hui. Le chanteur s'était fait connaître en 1990 avec Peuple du Monde et son clip réalisé par Mathieu Kassovitz. Mais le grand tube de David Gramont, de son vrai nom, c'est bien sûr Chacun sa route.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le meilleur
Chacun sa route qui figure sur la bande originale du film Un Indien dans la ville. Tonton David avait 53 ans. On termine avec la météo. Anissa Haddadi, au programme demain, du gris et beaucoup de jaune.
Alors du gris, Julien, en début de journée hein, sur les trois quarts du pays, avec dans le Val-de-Saône, le Poitou et l'Occitanie. Attention, des brouillards demain matin qui seront assez tenaces au fil des heures. En Corse et sur la Côte d'Azur, les entrées maritimes provoquent des grisailles qui seront là aussi tenaces et vont persister tout au long de la journée. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer sur une grande partie du pays. C'est vraiment une très belle journée demain pour toutes les régions situées au sud de la Loire. Un soleil qui brille dans un ciel complètement dégagé. Au nord de la Loire, sur la Bretagne, la Normandie et le long des côtes de la Manche, là le ciel va apporter quelques petites gouttes. C'est une perturbation qui touche la Grande-Bretagne actuellement et qui donc apporte un petit peu de perturbation sur les côtes de la Manche. Sur les Ardennes, la Champagne, les brouillards sont tenaces dans l'après-midi. Et puis sur les Hauts-de-France, la région parisienne, là nous avons un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Côté température, c'est toujours très doux demain, 0 à 10 degrés le matin, 3 à Clermont-Ferrand, 5 à Lyon, 6 à Nice, 7 pour Paris et Marseille et 10 à Brest sous les nuages. Et puis dans l'après-midi, 8 à 19 degrés, 11 à Dunkerque, 12 à Lille, 13 à Paris, 16 à Marseille et 19 la maximale pour Carcassonne.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très belle nuit à tous. À l'écoute d'Europe 1, votre libre antenne se poursuit avec vous, mon cher Olivier Delacroix.
Merci Julien, bonne nuit et à demain.
Europe 1, écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler le 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou envoyer vos SMS au 739-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Comme Yvette ce soir qui nous dit qu'elle avait un gros problème la semaine dernière, qu'elle a attendu près de 12 heures aux urgences et qu'elle a retenu son mal en patience et qu'elle se plaignait mais que rien n'avançait. C'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos de lire un message comme celui-ci, mais on pense à tout ce personnel, ces personnels soignants qui en ce moment bien évidemment sont submergés et il est vrai qu'il ne faut pas les oublier, chers amis. On accueille maintenant Olivier au 39-21. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous, Olivier, et quel âge avez-vous ?
Alors, j'ai 44 ans et je vous appelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Olivier ? Dites-moi.
Je souhaitais participer ce soir pour faire part de mon expérience du burn-out et de la dépression sévère.
D'accord. Je vous écoute.
Oui, alors voilà, j'ai 44 ans, je suis ancien maître d'enseignement en santé mentale et psychiatrie, ancien chargé de cours et infirmier en psychiatrie. Mmh. Et pendant plusieurs années, entre 2008 et 2018, j'ai vécu des choses compliquées au travail, en lien avec ma responsable du département à l'époque.
Que se passait-il ?
Ce qui s'est passé, c'est que en 2008, j'avais postulé pour un poste de chargé de cours. C'est-à-dire que j'avais la possibilité d'enseigner à des futurs étudiants en soins, infirmiers, et de continuer ma pratique d'infirmier psychiatrique dans l'hôpital dans lequel j'étais. Mais ma responsable de département n'était pas en accord avec mon projet. Et les 10 années qui ont suivi ont été très compliquées pour moi. Quelque chose que l'on pourrait qualifier de harcèlement au travail. J'ai dû travailler pendant 10 ans dans un pool d'infirmiers à faire régulièrement des remplacements avec un emploi du temps qui changeait régulièrement de mois en mois, des horaires irréguliers et des lieux de travail différents régulièrement. Et avec tout ça, je devais mener de front également la préparation des enseignements que je faisais pour l'école dans laquelle je travaillais, et l'enseignement et l'accompagnement des étudiants. Et pendant ces 10 années, je faisais régulièrement des semaines de 70 à 80 heures en réalisant 2 emplois en même temps.
Et comment se fait-il que vous faisiez autant d'heures ?
Parce que les 2 institutions dans lesquelles j'ai travaillé n'étaient pas en accord, et donc j'avais 2 contrats de travail et donc 2 emplois du temps séparés, et ni l'une ni l'autre ne souhaitaient communiquer et trouver un accord pour me permettre de mener à bien mes 2 emplois.
D'accord. C'est-à-dire qu'elles ne voulaient rien entendre.
Voilà, exactement. Ils avaient une grande difficulté de communication, et pourtant l'école était pourvoyeur des futurs infirmiers qui allaient travailler dans cette hôpital.
C'est incroyable quand même. Elles avaient la pression elles-mêmes, ou c'était vraiment une espèce de caprice de chef, à votre avis ?
Je dirais plus que c'était quelque chose qui s'apparentait à de l'ego, dans le sens où j'ai eu l'occasion pendant ces 10 années d'être régulièrement convoqué dans son bureau, et elle m'expliquait mon projet n'était pas le sien, et que si je voulais, je pouvais à tout moment démissionner. Et elle savait que si je démissionnais, je perdais mon emploi d'enseignant et je perdais mon emploi d'infirmier dans cet hôpital.
Mais lorsqu'elle dit ça, que ce projet n'était pas le sien, elle vous porte comme responsable de ce projet ? Parce que vous n'étiez pas le seul à le porter, ce projet.
Non, alors je le portais avec l'école qui voulait que j'enseigne.
Oui.
Et à l'époque, c'était le chef de service, donc le médecin du département, qui avait fait pression pour que je puisse réaliser l'enseignement et continuer à avoir ma place en psychiatrie où je travaillais. Et donc ça, c'était quelque chose qu'elle avait du mal à accepter.
Donc du coup, vous êtes maintenu à ce poste. Pardonnez-moi, oui. J'ai la voix un peu enrouée ce soir.
Je vous en prie.
Et donc vous êtes usé à vous battre contre cette personne. Elles étaient 2, vous m'avez dit.
Alors, comment ça ? C'était surtout une personne, et puis il y avait la directrice des ressources humaines, mais c'était surtout une personne. C'était la responsable du département, et qui avait décidé que j'intègre un pool d'infirmiers, et donc elle devenait et ma responsable de département, et ma responsable directe pour mes affectations de travail, mon emploi du temps, et mes entretiens de service d'évaluation.
D'accord. Alors, parlez-moi de ce burn-out. Vous l'avez senti venir, ou... Par quoi cela a commencé ?
Alors, à la fin de ces 10 années, j'ai trouvé un nouvel emploi en septembre 2018, où je ne réalisais plus que dans l'enseignement, et donc j'étais parti des soins. Et là, je m'étais dit que ça y est, enfin, je réalisais l'enseignement, et puis je quittais cet univers toxique. Mais il y avait beaucoup de travail à faire, et je pense que ces 10 années que j'ai vécues ont laissé beaucoup, beaucoup de traces à l'intérieur de moi, sans que je me rende compte vraiment. Et dans la nuit du 5 février au 6 février 2019, c'est là que le burn-out s'est annoncé à moi. J'ai eu effectivement, maintenant j'en parle plus facilement, j'ai eu effectivement des signes avant-coureurs qui me font dire aujourd'hui que quelque chose était en train de s'initier à l'intérieur de moi.
Oui.
J'avais des insomnies dans un premier temps. J'avais une petite heure en moins de sommeil par-ci par-là. Et puis petit à petit, je ne dormais plus que 2 heures par nuit. Ça a compté du mois de janvier 2019. Et je n'y ai pas prêté attention dans un premier temps parce que j'avais beaucoup de travail à construire en termes d'enseignement. Et je disais juste à mon épouse, ben voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment, j'ai pas mal de soucis en tête, mais tout va bien se passer. Et au fur et à mesure des semaines, je me rendais compte que j'avais du mal à aller au travail. L'envie n'était plus la même. Et une semaine avant que je tombe malade, je commençais le soir en rentrant à la maison à pleurer, en me disant « Waouh, c'est incroyable, là, Moi qui ai toujours eu l'habitude pendant toutes ces années de faire face à tout, ma vie de famille, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon travail, là je me sentais en difficulté. Je commençais à lire mes mails un peu partout, à mon bureau, dans le bus, dans le train, chez moi, sur les toilettes. J'essayais petit à petit de pallier à mes difficultés jusqu'au moment où je réussissais plus à comprendre la tournure des phrases de mes collègues, leurs demandes. J'avais des difficultés à lire mon agenda. Je réussissais plus à comprendre les mails que mes collègues m'envoyaient. Et je commençais petit à petit à perdre pied. Et le 5 février, j'étais très fatigué quand je suis rentré. Je regarde un film avec mon épouse et puis à 22h30, je me dis, voilà, écoute, faut que j'aille me coucher. Ça devient trop, je suis fatigué, faut que je me couche. Et cette nuit-là, contrairement aux autres, je dors très bien. Et le réveil sonne à 5h du matin, comme d'habitude. Et puis, je me mets sur le bord du lit. Et au moment où je me mets sur le bord du lit, je me mets à pleurer. Oui. Pleurer et sans discontinuer. C'était impossible pour moi de m'arrêter.
Sans savoir pourquoi.
Ouais. Je me suis retrouvé paralysé, littéralement sur le bord du lit, en ayant des sensations à l'intérieur de moi que je connaissais pas. Et je sentais juste que je voyais les choses autour de moi et je perdais totalement le contrôle. Il y avait plus rien autour de moi qui existait. J'étais à l'intérieur de moi et je me voyais ne plus rien gérer du tout. Oui. Et là, ma femme à côté m'a dit « Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je pleurais tellement, j'avais la mâchoire tellement crispée que je réussissais même pas à répondre. Mm-hmm. Et
ça avait cédé.
Pour moi,
ça avait cédé.
Voilà, ouais. Tout, c'est comme si d'un coup, tout s'arrêtait. Je voyais les choses autour de moi, mais j'étais comme prisonnier à l'intérieur de moi, et comme si je faisais une chute libre, comme dans un gouffre. Je pouvais plus du tout contrôler, plus rien.
Oui, allô. Oui, je suis là, je vous écoute.
Oui, pardon.
Quand je vous dis ça avait cédé, c'est vraiment comme j'ai l'image d'une digue qui a cédé là, et l'eau passe partout en fait. Vous n'aviez plus aucun contrôle.
Oui, c'est exactement ça.
C'est fou, c'est lorsqu'on écoute des personnes qui ont été touchées par un burn-out, alors je veux dire un vrai burn-out, hein, parce que c'est ce que vous racontez, le burn-out, vraiment.
Ouais.
C'est à un moment, on ne peut plus se lever. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui répond. On est totalement vide et sans force, et on ne peut plus, en fait. Les personnes avec qui j'ai discuté, c'est ça. Elles me disaient, à un moment, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus aller au travail. C'était impossible. Je ne pouvais plus me lever du canapé. Je suis resté assis là pendant des minutes sans pouvoir bouger.
Oui, c'est exactement ça. Et là où je vous rejoins, c'est ce qui a été très pénible pour moi pendant cette période-là, c'est la sensation de vide à l'intérieur. Tout est, d'un seul coup, tout est brûlé. C'est comme s'il y avait une autoroute dans le cerveau qui était embouteillée. Il n'y a plus rien qui passe. Et il n'y a plus rien qui réagit. Et il y a juste, des bouffées comme ça qui montent. Et des pleurs sans cesse qui sont envahissantes. Et moi qui n'avais jamais vécu l'angoisse jusque-là, j'ai vécu des moments d'angoisse, mais très très collantes, très envahissantes, des sensations d'étouffement,
la panique.
Ouais, exactement. Et dans ces moments-là, les seuls moments qui me permettaient de pas trop perdre pied, c'était de me recroqueviller sur moi-même et de m'allonger sur le sol dans ces moments-là et de crier tout ce que je pouvais crier pour que ça s'arrête.
Oui. Oui, vous étiez dans un état un état second, de toute façon, un état que vous n'aviez jamais connu.
C'est ça. C'est la grande difficulté dans ce moment-là, c'est que tout est nouveau et surtout je me reconnaissais plus. j'avais l'impression de ne plus être humain. J'ai des souvenirs comme ça où je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner.
Oui.
Et j'ai des souvenirs de d'aller à mon frigo, vouloir faire préparer à manger à mes enfants qui ont maintenant 11 et 8 ans et qui à l'époque avaient 6 et 9 ans. Et d'aller au frigo, de me dire, allez, je vais chercher les légumes, d'arriver dans ma cuisine. Et là, sur le plan de travail devant moi, il y a les légumes, il y a moi avec le couteau, mais il n'y a personne qui répond. J'avais le couteau. Je savais que je devais couper les légumes avec le couteau,
oui.
Mais je savais plus le faire. Et la recette de cuisine, je la comprenais plus. Je savais plus comment couper les légumes et je savais plus ce que je voulais faire. Il y a plein de choses de la vie courante qui nous semblent faciles dans la vie de tous les jours,
mm-hmm.
Mais là, là, je savais plus. Je savais plus du tout. Et c'est ce qui m'a fait énormément peur au début de la maladie, c'est toutes les pertes cognitives que j'avais. Je perdais la mémoire, j'avais plus d'attention, plus de concentration. La seule chose que je savais encore bien faire, parce qu'il fallait que je le fasse, c'était important, c'était de prendre la voiture pour conduire mes enfants à l'école et aller les chercher. Et en essayant, à la sortie de l'école, de masquer que j'allais mal, quoi.
Mmh.
Parce qu'à tout moment, je pouvais pleurer et je voulais pas que mes enfants aient honte devant l'école, quoi.
C'est fou, hein, comme tout à coup, tout explose, hein, lorsqu'on est pris comme ça.
Ma vie a basculé du jour au lendemain.
Mmh.
Du jour au lendemain, je suis tombé dans un précipice, dans un gouffre. Et comme si j'étais en avion et que je me crachais et que il y avait personne pour me sauver.
Oui, oui.
Et dans ces moments-là, ce qui était le plus compliqué, c'était vraiment alors je pouvais avoir des tremblements, j'avais des barres dans la tête comme si j'avais une paroi au niveau du front et sur les côtés et un étau. Ça compressait mon cerveau.
Mmh.
J'étais à côté de mes enfants et je voulais être avec eux. En même temps, je voulais pas être avec eux. Mais quand j'étais seul, j'étais très mal. J'étais comme un enfant qui cherchait la lumière, quoi. Qui cherchait quelqu'un pour le sauver. J'étais vraiment le quatrième enfant de la maison, quoi.
Oui. C'est fou, hein, comme tout est mort, hein, comme mort à l'intérieur, hein, quand on vit ce genre de choses.
Ouais, c'est exactement ça. C'est un terrain de ruine. D'ailleurs, quand je parle de ruine, j'ai dû aller voir un médecin psychiatre.
Ouais.
Parce que les premières semaines, je voulais pas, en me disant que j'allais me reposer, j'allais dormir et ça allait bien se passer. Mais ni le jour ni la nuit, je réussissais à dormir. Pendant presque un an, j'ai vécu des insomnies à dormir une heure par nuit. Je savais même pas que c'était possible qu'on puisse vivre sans dormir, sans pratiquement dormir. J'étais fatigué, mais c'était impossible pour moi de trouver le sommeil. Et puis j'ai dû aller voir, à un moment donné, me résigner à aller voir un psychiatre parce qu'à la maison, au bout de 2 semaines, ça allait pas. Le repos ne fonctionnait pas. Et puis là, ce qui a commencé à devenir très compliqué, c'était l'acceptation d'un traitement. Parce que pendant 20 ans, j'avais longtemps milité pour faire en sorte que les patients dont je m'occupais ne prennent pas trop de traitements, connaissant les effets secondaires des neuroleptiques et les effets secondaires des antidépresseurs. Je me suis retrouvé avec un médecin psychiatre qui me disait c'est un suivi avec traitement ou pas. Et mon médecin généraliste m'avait dit c'est un suivi avec un psychiatre ou c'est l'hospitalisation. Parce qu'à cette époque-là, je voulais à faire plus qu'arrêter la souffrance, c'est que je voulais mettre fin à mes jours. J'ai 44 ans, j'avais jamais pensé à mourir. Et là, la souffrance, elle était tellement importante, tellement grande, c'était tellement terrible que je voulais que ça s'arrête. Je voulais que ça s'arrête et j'avais qu'une idée, c'était de mettre fin à mes jours pour que tout s'arrête. Ça, c'était mon souhait et à la vue de tout ça, j'ai commencé à prendre un traitement antidépresseur. J'ai dû commencer à prendre un traitement aussi de neuroleptique parce que j'avais des idées de ruine. Je disais à ma femme, je vais tout perdre. Je vais perdre mon emploi, j'aurai plus rien. Je pensais devenir SDF et vivre dans la rue. J'osais plus acheter de petits pains au chocolat à mes enfants parce que je m'imaginais que j'allais nous mettre en difficulté si je dépensais trop d'argent. J'avais des idées, mais complètement irrationnelles, complètement folles.
Et vous étiez parti loin, hein, très loin.
Ouais, mais trop loin, en terrain connu, complètement. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça puisse m'arriver un jour. Souvent, je dis à mon épouse maintenant, parce que après ces 2 ans, on est toujours ensemble. Elle a eu beaucoup de courage parce que pendant toute cette période-là, j'avais plus d'affection ni pour mes enfants ni pour mon épouse. Au niveau émotionnel, j'étais complètement abrasé. Je voulais plus parler à mes enfants. J'étais persécuté par eux. Je les tenais pour responsables de ce qui m'était arrivé. Pour eux, pour moi, ma femme et mes enfants étaient responsables de ma maladie. Mon travail aussi. Enfin, c'était pour moi une forme telle d'injustice ce que je vivais que la terre entière était responsable de ce que je vivais. Je voulais plus leur parler, je voulais plus passer du temps avec eux, je criais à la maison, je voulais plus, voilà, j'avais plus d'amour pour eux, plus d'amour pour moi non plus. Mais mes enfants me disaient régulièrement, papa, même si t'es malade toute ta vie, nous, on t'aimera toujours. Maintenant, quand j'y repense, ça me touche. J'ai des émotions. Ça me fait mal d'y penser quand j'étais dans cet état-là. Rien ne pouvait me toucher. Un enfant qui serait mort devant moi dans la rue, ça m'aurait pas du tout impacté. Je ressentais plus rien, mais les gens autour de moi étaient comme des représentations en carton, en 2 dimensions. Et je ressentais plus rien du tout.
C'est fou.
Et j'avais plus d'amour pour les autres, mais plus d'amour pour moi non plus. Je faisais le minimum pour moi. Je mangeais un peu, je me lavais et je faisais les choses un peu à la maison. J'essayais de survivre. Face aux angoisses, j'essayais de faire quelques courses pour qu'on ait quand même des choses à la maison. J'avais peur de dépenser mon argent parce que j'avais la sensation qu'on allait tout perdre. J'achetais 2-3 choses que je mettais dans mon caddie de peur de faire une crise de panique devant la caissière et surtout d'avoir honte de faire ça devant tout le monde. J'étais accroché à mon caddie. C'était insupportable. C'était juste insupportable.
Vous avez commencé à remonter quand, en fait ? À quel moment vous sentez que les choses commencent à aller mieux ?
Alors j'ai remonté 4 fois, j'ai chuté 4 fois. La première fois où j'ai commencé à remonter, c'est quand j'ai été hospitalisé en psychiatrie, parce que j'ai dû passer par cette étape-là. Parce que j'avais tellement d'idées suicidaires que je pouvais pas rester à la maison. Donc ma belle-mère est venue à la maison s'occuper des enfants et épauler mon épouse. J'ai été hospitalisé 2 mois et demi dans une clinique à Lyon, pendant laquelle ça a été très compliqué d'être séparé des miens, de devoir prendre un traitement, d'être entouré des patients, de dire aux infirmiers que j'étais moi-même infirmier, de devoir être accompagné, de devoir qu'on me demande d'ouvrir la bouche pour voir si je prenais bien mon traitement, de participer à des groupes, de devenir un patient en psychiatrie. Ça a été un moment très compliqué pour moi. Heureusement, là où j'ai trouvé beaucoup de réconfort et beaucoup de ressources, c'est auprès des autres personnes qui étaient hospitalisées. Je me suis rendu compte à quel point il y avait une grande entraide, une vraie famille de patients. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les personnes qui vivaient les mêmes choses que moi et à me rendre compte que je n'étais pas fou et que ce que je vivais, d'autres personnes le vivaient. J'ai eu un mieux en septembre 2019 qui s'est rapidement péjoré. J'ai dû reprendre un traitement en janvier 2020. J'ai eu un mieux également en mars 2020, pendant le confinement, où là j'ai réussi à m'occuper des devoirs des enfants à la maison et à vivre un autre rythme, et ça m'avait fait beaucoup de bien.
Oui.
Là, malheureusement, comme je me sentais tellement bien, j'ai arrêté mon traitement. J'ai beaucoup d'effets secondaires et j'en avais assez de le prendre en me disant que tout allait bien se passer et qu'il n'y avait pas de souci à se faire. J'ai commencé à faire de la méditation qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là et à faire une formation en Reiki. Et ça m'a bien porté pendant un temps et puis j'ai rechuté. Je suis allé revoir mon médecin psychiatre et on a commencé un traitement, puis on a rechangé de traitement. Et puis j'ai rechuté de nouveau quand j'ai appris mon licenciement en septembre 2020. Et là, j'ai dû reprendre un traitement de nouveau. J'ai continué avec beaucoup de volonté à me sortir du lit, à continuer à faire des soins de Reiki, à gérer les angoisses avec les outils que j'avais, à continuer la méditation, à beaucoup écrire. J'ai mis en place un carnet de bord dans lequel j'ai relaté tout ce que je vivais. Et puis je dirais que depuis début de cette année, je commence à aller mieux. J'ai repris goût à la vie, je ressouris. J'ai pu enfin, ce mois-ci, fêter mon anniversaire avec le sourire, reprendre du plaisir avec mes enfants et voir la vie différemment.
Ce qui est déjà pas mal, non ?
Oui,
Olivier.
Oui, c'est déjà beaucoup.
Vous êtes en arrêt toujours ?
Non, je suis plus en arrêt. J'ai négocié mon licenciement avec mon employeur. Je suis actuellement à Pôle emploi et je suis dans un projet de reconversion professionnelle.
Oui, oui.
Pour envisager un autre avenir.
Oui.
J'ai des projets. J'en avais plus. J'en ai à présent. Et c'est quelque chose qui me porte. Mes enfants ont retrouvé leur papa. Ma femme a retrouvé un époux plus à l'écoute, plus solide. Et surtout moi, je me retrouve. J'ai été pendant 2 ans spectateur de ma vie et je vis maintenant. Et rien que ça,
c'est énorme.
C'est juste énorme.
C'est énorme,
oui.
Bien sûr.
Oui. c'est juste incroyable. Alors tous les efforts que j'ai mis en place payent pour l'instant, le traitement aussi. Pendant longtemps, j'ai pas voulu en prendre et le traitement aujourd'hui m'aide aussi. C'est complémentaire. Les soins de Reiki que je fais et la méditation plus le traitement, ça m'aide beaucoup. Et ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est ce qui est assez incroyable, c'est que pendant cette période de maladie, j'ai fait plein de choses que je n'aurais jamais fait auparavant. Je pense que si j'avais été malade, actuellement, je remercie ma maladie, ce qui est plutôt nouveau, parce que j'ai beaucoup écrit et j'ai lu des ouvrages que je n'aurais jamais lu avant. Et des ouvrages que je conseille aux personnes qui sont autour de moi, dont un qui est vraiment révélateur, deux, je dirais, qui sont plus révélateurs pour moi, c'est le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ça m'a beaucoup apporté, beaucoup recentré. Et puis, les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz.
Excellent.
Je trouve ce livre fabuleux. Il m'a appris beaucoup de choses sur moi et depuis un peu plus de 3 mois maintenant, j'ai mis en place les accords Toltec dans ma vie.
Oui.
Et chaque jour, quand je me lève le matin, je me dis « Olivier, aujourd'hui, ta parole sera impeccable. Aujourd'hui, Olivier, tu feras du mieux que tu peux. Aujourd'hui, tu ne feras pas de suppositions. Chaque jour, je me fais ces accords-là. Et je travaille à l'intérieur de moi. Et c'est un livre qui m'a énormément apporté.
Je me doute que ça vous a énormément apporté. C'est fou parce que ces accords Toltec sont... Ils ont la vertu d'être simples, vraiment, à comprendre. Alors, pas toujours facile, bien évidemment, à mettre en pratique. Mais,
non, c'est vrai.
Mais il y a quelque chose qui se passe, vraiment, quand on les lit. En tout cas, quelque chose de lumineux, de fluide, de simple, en même temps. On dit souvent que les plus belles idées, souvent, partent de rien. Hein. Mais il est vrai que c'est tout à fait incroyable. Tout à fait incroyable de voir combien ces accords Toltec font du bien quand on en prend connaissance. Et je vous invite toutes et tous à acheter ces accords Toltec. Hein. Vous les trouvez, c'est un petit bouquin, ça ne coûte pas cher. Et ça peut vraiment radicalement changer votre vie. En tout cas, ça peut vraiment vous faire évoluer énormément et ouvrir les yeux d'une autre manière sur ce monde et sur votre relation à l'autre, mais aussi à vous-même. Et beaucoup à vous-même même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier.
Oui, c'est une vraie comment ça. Moi, ça m'a permis. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur, il parle de. Ça m'a beaucoup parlé parce que pendant la période où j'étais malade, je me rendais compte des pensées, des idées et des paroles dans ma tête. Et lui, il parle beaucoup du mitoté et de l'écran de fumée. Et c'est exactement ça. Ça me permettait pas de voir la réalité autour de moi. Et ce livre m'a permis une réelle prise de conscience. Alors déjà, le fait de d'être bienveillant vis-à-vis des autres, d'être chaleureux, de ne pas médire, de toujours faire du mieux qu'on peut. Le fait d'avoir une parole impeccable au quotidien. D'ailleurs, l'édition a été aussi écrite pour les enfants. Je l'ai acheté pour mes enfants et j'essaye aussi de travailler ça avec eux. Et ça permet effectivement à l'intérieur de soi un très très joli épanouissement et un développement personnel. C'est un outil fabuleux que je recommande à tous pour à peu près livre de poche 8 euros. C'est un très joli cadeau à se faire.
Oui, complètement. Complètement. Merci mille fois, Olivier, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bravo pour ce chemin accompli, et parce que ça n'est pas toujours évident, mais on sent que vous avez pris là, vous avez attrapé un nouveau fil d'énergie, que vous sentez bien, que vous menez bien même, que vous domptez et que vous êtes sur le bon chemin, vraiment.
Oui, je voulais, si c'était possible, déjà vous remercier de m'avoir accueilli ce soir.
Mais je vous en prie.
Vous dire comment c'est l'immense plaisir que j'ai à pouvoir discuter avec vous ce soir, parce que j'ai énormément utilisé pendant quand à l'époque j'enseignais vos vidéos, les yeux dans les yeux.
Oui.
Je les ai énormément utilisés avec les étudiants. Et j'aime beaucoup votre manière de pouvoir entrer en communication avec l'autre avec beaucoup de bienveillance. Et puis enfin, si vous me permettez encore un tout petit instant, pendant ces deux années où j'ai vécu ces maladies que sont le burn-out et la dépression, j'ai tout récolté, recueilli, et j'ai mes projets pour le futur. J'ai le souhait de devenir patient expert pour pouvoir aider les personnes qui vivent le burn-out et la dépression à pouvoir s'imaginer qu'il y a un possible meilleur. Et j'ai fini il y a quelques semaines maintenant d'écrire le récit de mon histoire, et je suis à la recherche d'une maison d'édition pour publier mon livre et pouvoir offrir ceci à toutes les personnes qui vivent et ont vécu la même chose que moi. Voilà.
Très bien. Et à toutes celles et ceux qui sont dedans, sur le chemin de la guérison, et qui ont bien besoin de ce type d'écrit et de voir qu'on s'en sort. On s'en sort. Parce que le burn-out a quand même cette particularité souvent de nous plonger dans les ténèbres et de penser que ça durera toute une vie. Mais non, on en sort. Merci mille fois, Olivier. Merci mille fois.
Un grand merci à vous. Merci beaucoup.
Et portez-vous bien. Au revoir.
Merci, c'est gentil. Bonne suite à vous. Au revoir, monsieur.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est minuit 42 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Célia au 39-21. Bonsoir Célia.
Bonsoir.
Bonsoir.
On m'entend ?
Oui, on vous entend très bien.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Célia.
Ça va être peut-être un petit peu futile, mais mon appel après le dernier appel là. Je vous ai appelé il y a à peu près 6 semaines pour parler de mes difficultés à engager des... à rester sereine au début d'une relation amoureuse.
Oui. Ah oui, je me souviens. Je crois me souvenir. Ouais.
Je m'appelle Célia, j'ai 48 ans, mes enfants sont grands et sont partis, et je vis seule depuis... je suis célibataire, divorcée, et je rencontre souvent... je n'ai pas de problème à rencontrer des hommes. Mais par contre, dès qu'une relation commence, je tombe en panique avec des angoisses, et souvent, je fais que ça tourne à la catastrophe.
Cela vous fait agir comme une jeune fille qui s'affole, oui, et qui peut éventuellement faire peur à celui que vous avez rencontré et qui n'est pour l'instant, exactement, que sur le chemin de apprendre à connaître l'autre. Et vous êtes tout de suite à fond dans l'histoire.
Voilà, à fond, et en plus trop demandeuse. Alors là, j'ai dû vous appeler vers le 12 janvier, puisque j'ai rencontré quelqu'un
vers
le 8-9, quoi.
Voilà. Qui vous avait dit mono.
Voilà, pour le coup, cette relation est toujours d'actualité.
Ah, parfait, super.
Oui, c'est chouette. On s'est vu, on ne peut se voir que le week-end, donc on s'est vu 5 week-ends consécutifs. Mmh. Ça se passe bien, c'est tranquille. Il est plutôt rassurant, puisque je sais quand même aussi communiquer certaines de mes attentes, puisque sans mettre de pression, je veux savoir un petit peu si on va dans la même direction. Donc, il est assez communicant, et donc du coup, c'est chouette. Et ce qui s'est passé dernièrement, pour le coup quand même, c'est que ce week-end, là, on ne pouvait pas se voir, puisqu'on avait chacun des choses à faire de notre côté. Et en fait, j'ai très mal vécu le week-end. Et donc, je me suis dit que bah, je n'étais pas guérie. Et là, j'ai vécu le week-end comme une adolescente. Pourtant, il m'a donné des nouvelles, mais pas assez, jamais assez à mon goût. Dès que je reçois un SMS, j'ai envie d'en recevoir un autre. Et en fait, j'ai quand même réfléchi à ce problème. Et je crois que c'est mon besoin d'être rassurée est un puits sans fond, quoi. Donc, je cherche des solutions. Je ne lui transmets pas mes angoisses. J'essaye. Hein. Je pense qu'avant, j'aurais envoyé des messages pas sympas. Là, je ne le fais plus, ça. Donc, parce que je sais très bien que sinon, ça va courir à la catastrophe. Mm-hmm. Mais je continue à chercher des solutions pour. Parce que je sais que le problème, ce n'est pas lui, pour le coup, même s'il n'est pas très communicant. C'est pas grave. Le problème, c'est vraiment moi et ces angoisses-là. Et ça me met dans des états de dingue. J'ai passé le week-end à me faire des films, à imaginer tout et son contraire. Et des fois, j'en arrive même à me dire que le plus simple pour moi va être de mettre un terme à cette relation parce que c'est trop compliqué à vivre, en fait. Je sais pas si vous... C'est pas ce dont j'ai envie, parce que j'y tiens, cet homme, et puis on s'entend bien, et il y a sans doute moyen qu'effectivement, on fasse un petit bout de chemin. Oui. J'ai souvent eu l'habitude de dire « je suis mieux quand je suis seule », et en fait, je suis mieux parce que j'ai pas ces angoisses-là, je me prends pas la tête, et ça me fatigue, ça me pompe toute mon énergie, je saoule tout le monde avec mes histoires, j'ai passé le week-end à contacter des copines qui m'ont dit « mais arrête, enfin voilà ». Donc, je cherche des clés, des outils, voilà, je ne sais pas comment faire.
Que s'est-il passé exactement dans les détails ce week-end qui vous a fait paniquer ?
Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il partait pour un week-end festif, d'anniversaire, tout ça,
oui.
Auquel on avait convenu que, enfin, on n'était pas prêts tous les deux pour chacun emmène l'autre dans son univers. Donc voilà. Donc je savais où y aller, tout ça. Il est parti. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était bien arrivé le vendredi. Donc super sympa. Et en fait, j'ai eu ensuite... moi, je n'en ai pas envoyé de message. Je ne voulais pas être trop... Enfin, je ne voulais pas envoyer de message. Et je lui avais dit, écoute, tu me donneras des nouvelles quand tu peux, si tu peux. Donc, j'ai eu un petit message sympa le samedi midi et un autre le dimanche midi. Voilà. Donc, mais pour moi, enfin, voilà, c'était pas assez. J'aurais voulu plus. Alors que c'est nul, parce que c'est déjà vachement bien qu'il en ait envoyé. Mais voilà, c'est tout ce qui s'est passé. C'est rien passé d'autre. C'est juste moi et mon stress, quoi.
Ouais, et donc vous êtes toujours dans ce stress-là, dans cette panique.
Ouais.
Et ça, en fait, par rapport à la dernière fois que nous avons parlé, on était dans le même... Alors, est-ce que vous trouvez que vous avez évolué un petit peu depuis la dernière fois ou pas ?
Alors, j'ai évolué dans le sens où, au niveau SMS,
c'est super.
Ce n'est plus moi qui... Je n'en envoie plus.
Ah,
le matin.
C'est super parce que vous étiez vous étiez la reine du SMS.
Ah, j'étais complètement accro. Enfin, voilà. Et ça a complètement évolué. Ça a évolué aussi parce que, puisqu'on en a parlé avec lui tous les deux de ça, parce qu'on a la chance quand même de pas mal discuter de comment on est et de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. J'ai aussi entendu de sa part que si je le saoulais avec les SMS, ça allait être vite vu, quoi. Donc,
bon, comme ça, il vous a annoncé la couleur, au moins.
Oui, ouais, c'est ça, il a annoncé la couleur.
Est-ce que vous sentez qu'il apprécie que vous soyez discrète, en tout cas que vous ne lui écriviez pas des SMS comme ça ?
Oui. Mm-hmm. Ouais.
Ça se passe bien entre vous, en fait. Donc.
Mais ça se passe super bien, c'est ça qui est pénible, en fait. Ça se passe super bien quand on se voit. Voilà, il y a zéro problème, c'est même super. Mais en fait, moi, je supporte pas l'absence, quoi. C'est-à-dire que même la semaine, je en ai parlé, on se voit du samedi au lundi, parce que voilà, quand je pars de chez lui le lundi, même si le week-end s'est super bien passé, dès que je monte dans ma voiture, mon stress est de me dire, est-ce que je vais le voir le week-end prochain ? Et sauf qu'il n'y a aucune raison que je ne le vois pas le week-end prochain, puis, enfin, sauf quand il y a des imprévus comme ça, mais qui sont programmés pour le coup. Mmh. Mais et je suis en stress tout le temps. Si je n'ai pas de nouvelles, au bout d'un moment, je suis en stress. C'est comme si je... Enfin ouais, je suis pas dans la confiance de la relation, alors qu'il y a rien, qui me laisserait à penser que ça va pas, puisque il donne des nouvelles, enfin voilà, il se passe rien, il fait pas de mal quoi. C'est moi qui pars un peu dans n'importe quel sens, et j'ai l'impression que plus je m'attache, plus je stresse quoi. Voilà, donc je cherche des outils, j'ai bouquiné des choses, j'ai cherché, je suis allée voir un peu sur les forums, parce que je sais bien que, je vous l'avais dit, j'ai fait pas mal de passages thérapie pour régler des problèmes, mais sauf que ça c'est toujours là et je sais pas quoi faire. Je me raisonne,
oui.
Mais ça me fait, je me raisonne donc j'envoie pas de messages. Quand il m'a appelé dimanche soir et m'a demandé si j'avais passé un bon week-end, j'ai dit oui, parce que je voulais pas lui dire non, je me suis pris la tête, tu m'as pas donné de nouvelles. Enfin, je voulais pas, parce que je veux pas le faire fuir.
Oui.
Mais pour le coup, moi, je me fais passer des moments incroyables. Et j'ai beau en plus me dire allez, va marcher, change-toi les idées, tout ça. Non, c'est complètement en boucle.
Oui, vous restez en ouais. Boucle. Ouais.
Ah, je suis en boucle.
Mais donc, bon, tout va bien quand même. Hein. Tout va bien en règle générale. Là. Moi, je trouve que c'est plutôt de bonnes nouvelles. Mais il faut que vous appreniez, encore une fois, je vais vous répéter ce que je vous avais dit la première fois, c'est que vous continuez d'être dans une peur incontrôlée de perdre l'autre et... il faut vraiment vous concentrer sur l'essentiel de ce que vous connaissez, en fait. Et ce que vous connaissez de votre relation à tous les deux, c'est ce qui va, là. C'est ce qui marche, ce qui roule. Mmh. Tout le reste n'est que du fantasme. Vous entendiez, Olivier, tout à l'heure, vous parler des accords Toltec.
Oui,
Vous interprétez beaucoup de choses, Célia.
Oui.
Vous fantasmez même négativement, en fait. Un jour, il vous invitera peut-être dans son cercle d'amis. Mais vous avez pris visiblement cette décision tous les deux de ne pas mélanger pour l'instant. Oui. Donc, c'est une décision à 50-50, tous les deux.
Ah oui, complètement. Oui.
Est-ce que vous avez l'impression de la subir, cette décision ?
Au début, parce qu'il m'a parlé assez tôt de son absence pour ce week-end-là, hein, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, j'espère qu'il va m'inviter. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, oh, je sais pas, parce que si de mon côté, j'avais le même projet, j'aurais pas été prête à ce qu'on mélange, à l'amener avec moi dans mon cercle d'amis. Donc, voilà, le week-end après, on en a rediscuté. Je lui ai dit, je lui ai expliqué hein, que ça m'aurait sans doute fait plaisir, mais qu'en fait, je comprends qu'on ne le fasse pas. Donc, je pense que c'est 55 ans. Alors, non, allez, on va dire 60 pour lui, 40 pour moi, peut-être. Voilà.
D'accord.
Ouais. Mais en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on discute beaucoup de tout ça. Et du coup, je me demandais si je devais lui parler de mes angoisses ou pas. Alors, pas au téléphone,
non.
Évidemment.
Non.
Non. Ouais.
Non. Non, parce que vous allez lui faire peur. S'il sent que vous angoissez en plus, regardez. Je vais vous expliquer. Il a passé un week-end avec ses potes. Vous avez passé votre week-end à angoisser. Vous savez sur quoi vous avez angoissé. C'est qu'il rencontre d'autres femmes.
Ouais.
Qu'il même couche avec une autre femme. Qu'il embrasse une autre femme.
Complètement.
Voilà. Et tout ça n'est que le fruit de votre imagination.
C'est clair.
Alors, je ne le connais pas, cet homme. Il faudra de toute façon, à un moment, quand ça durera un peu plus, que vous vous assureriez que ces week-ends, il a envie de les passer avec vous plutôt que les passer avec ses copains. Mais voilà, de temps en temps, c'est bien qu'ils puissent faire un week-end avec des potes. Et, vous savez, et les garçons, quand ils se réunissent, ils sont pas obligés d'aller...
Non, mais je sais bien.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est, les garçons, ça aime, comme les filles, se réunir et puis rigoler entre garçons, comme les filles rigolent entre filles.
Mais, et ça, en plus, c'est, moi, j'ai besoin de ça aussi, moi, de mon côté. Donc, je comprends complètement. Hein. Moi, je suis aussi, j'ai besoin parfois de m'évader sans être à deux, avec les copines, tout ça. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est très bien, en fait. Ça me convient hein, comme mode de fonctionnement. Mais je suis partie dans mes angoisses, quoi. Ce qui est insupportable, c'est cette non-possibilité de revenir à quelque chose de serein. C'est-à-dire que c'est des pensées négatives. Alors parfois, quand elles sont plus légères, j'arrive à les évacuer, hein, méditation, tout ça. Mais là, impossible, quoi. Et j'en ai marre de ça.
Oui, j'en ai marre. Je comprends.
Ouais. Là, pour le coup, j'ai pris rendez-vous avec un psychothérapeute qui est plus dans les thérapies comportementalistes ou je crois que ça s'appelle Gestalt ou quelque chose comme ça, pour essayer de résoudre le problème, en fait.
Mais vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. J'allais vous soumettre vraiment d'aller... Marie, au 739-21, nous dit peut-être que Célia souffre d'un TOC mental. Alors, c'est la première fois que j'entends parler d'un TOC mental, mais en même temps, un TOC, c'est quelque chose qui... revient régulièrement et qui se répète d'une manière non rationnelle, vous voyez. Et donc, du coup, mais ça me gêne un peu parce que ça ne ressemble pas à un TOC, parce que ce que vous vivez, ça ressemble à ce que plein de femmes vivent. Et plein d'hommes aussi, hein, attention, c'est la même chose, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas sûres d'elles et qui sont trop dépendantes, effectivement, et qui, tout à coup, remettent tout sur la relation qu'ils sont en train de vivre, et leur vie en dépend presque. Or, une relation, je vous l'ai dit la dernière fois, pour qu'elle soit bien, pour tout le monde, hein, pour lui comme pour vous, il faut qu'elle soit aérée, il faut qu'elle soit équitable, il ne faut pas qu'il y en ait un qui marche sur l'autre, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait envie de posséder l'autre. Une belle histoire d'amour, c'est tout d'abord respecter la liberté et aimer la liberté de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime. C'est lui montrer, je trouve qu'il n'y a pas plus belle preuve d'amour que de faire confiance à l'autre.
Oui, je crois que le problème, il est un peu là aussi, en fait.
Et puis, allons plus loin. Dans notre éducation judéo-chrétienne, oulala, il a fait l'amour avec une autre fille, il a embrassé une autre fille. On s'en fout, en fait. Ça ne vous regarde pas, ça n'est pas à vous. Ce qu'il a fait ce week-end, c'est à lui. Et s'il l'a fait, c'est qu'il avait envie de le faire. Et qui êtes-vous, ou qui, lui, il est, pour vous interdire de faire quoi que ce soit? Vous voyez, tant que ça ne vous enlève rien, tant que les moments que vous passez ensemble, vous voyez?
Donc, je suis complètement d'accord, mais d'ailleurs, moi, je suis plutôt ouverte sur ce genre de choses. Hein, le fait est que c'est pas tant qu'il l'ait fait qu'il pourrait me poser. En plus, bon, voilà, pour en avoir discuté, je pense pas. Enfin, c'était pas le. Enfin, quand bien même. Mais c'est pas tant le fait qu'il l'ait fait, si jamais il l'a fait, c'est que c'est juste ce besoin de savoir s'il l'a fait ou pas.
Ben oui, mais c'est ça encore, savoir, c'est pas. Voilà, il vous le dit s'il a envie, mais ça, ça lui appartient. Et comme tout un tas de choses qu'on fait dans la vie qui nous appartiennent, nul ne doit nous posséder. Michel parle d'un sentiment d'abandon au 739-21 qui remonte sans doute à beaucoup plus loin que vous ne pensez. Il faudrait vraiment que vous travailliez là-dessus, mais vous avez décidé de travailler dessus, Célia. C'est vraiment très bien d'avoir pris cette décision. Donc, je vous encourage. Et n'hésitez pas à me rappeler vraiment pour qu'on on échange comme ça. Hein. Vous savez où me trouver. Et je trouve ça, de toute façon, toujours très intéressant parce que vous progressez. Donc, c'est super.
Oui. Ok. Bah, je le ferai.
Je vous embrasse. Et soyez courageuse et soyez grande.
Oui. Hein. Ok. Merci.
Au revoir, Célia.
Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. Courte, cette libre antenne ce soir. 1h30 qui ont passé à la vitesse d'un souffle. On se retrouve demain à 22h30 pour 2h30 intense avec vous, ensemble. Cette communauté, demain soir, va encore réfléchir, va encore écouter, va encore voyager. C'est bien là, ce moment que nous partageons tous ensemble. Je vous embrasse. Passez une belle nuit. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Et on se retrouve demain soir à 22h30. Salut.